Europe 1, la libre antenne. Roland Pérez.
La nuit relie ceux qui n'osent pas se croiser le jour. Vos histoires, vos blessures, vos éclats de rire, tout ça nous construit ensemble. Alors, peut-être que vous pourriez prendre votre téléphone et composer le 01 80 20 39 21. Laissez vos mots voyager jusqu'à nos oreilles ce soir et aux oreilles des auditeurs. Florian et Julia sont là, au bout du fil, pour recueillir vos appels. Et puis Laurent Pellet, comme chaque soir, réalise cette émission.
La libre antenne d'Europe 1. Roland Pérez accompagne vos nuits.
Bonsoir Bertille.
Bonsoir.
Vous êtes extrêmement jeune, vous appelez de la région parisienne, vous avez 27 ans Bertille. Et en fait, ce que vous allez nous dire est très important notamment en direction des jeunes, à destination des jeunes qui peuvent, à un moment de leur vie, peut-être tomber sous forme de dépression. On va leur prescrire des médicaments, ce qu'on appelle souvent des psychotropes, des médicaments qui sont des antidépresseurs dont ils vont avoir une certaine habitude, surtout quand on commence à les prendre très jeune. Ça a été votre cas, vous allez nous le dire. Et puis un jour, il faut essayer un peu de s'en passer. Il faut diminuer évidemment cette consommation. Il faut tenter d'avoir une vie sans ces médicaments qui deviennent un peu une seconde béquille, mais qui peuvent être lourds en effet secondaire. Ça a été votre cas, mais simplement le sevrage s'est extrêmement mal passé. Vous avez décidé aujourd'hui de lancer une pétition, on va y revenir.
Oui, mais déjà, bonne soirée à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et en effet, vous l'avez bien décrit ce soir, je viens pour vous parler de l'ignorance, qui est une réelle ignorance, de la médecine en française, du sevrage des médicaments psychiatriques. Et si on a un peu de temps aussi plus largement, de la catastrophe que représente la psychiatrie en France aujourd'hui.
Alors, on va commencer déjà par votre histoire, pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes si impliqué, pourquoi ce combat est si important pour vous. Vous avez 16 ans quand vous tombez véritablement dans une dépression, quels qu'en soient les termes qu'on va désigner, parce que je crois qu'il va y avoir en plus des interprétations diverses des médecins qui vont se tromper et qui se trompent encore toujours sur la nature vraiment de l'affection dont vous souffrez. Mais en tout cas, vous allez avoir très, très vite besoin de ces antidépresseurs.
Oui, alors pour résumer brièvement, en fait, moi j'ai vécu une erreur de diagnostic, ou plusieurs. On m'a diagnostiqué schizophrène au départ, donc c'était assez loin du but. Et donc oui, j'ai pris des médicaments très lourds à cette époque, et c'est aussi de là que vient ma méfiance vis-à-vis de la psychiatrie en France. Mais par la suite, j'ai eu la chance de tomber sur une médecin absolument merveilleuse qui m'a sauvé la vie, qui m'a prescrit un antidépresseur, qui m'a permis de remonter la pente. Même si, je le rajoute quand même, on m'a aussi à ce moment-là ajouté d'autres traitements qui étaient assez sédatifs justement et qui m'ont gardé dans une fatigue chronique assez longtemps et qui a fait justement que j'en suis venue à un moment donné à me dire qu'il fallait que j'arrête tous mes médicaments. Donc la première fois que j'ai arrêté mes traitements, puisque c'est le sujet dont j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui et qui concerne encore une fois toutes les personnes qui prennent des psychotropes. Donc la première fois, je l'ai arrêté toute seule, ce qui n'était pas une très bonne idée en soi.
Ce qu'on appelle un sevrage qui doit s'accompagner normalement d'une progression, d'une surveillance, d'un dosage, d'un équilibrage, d'un équilibre de dosage, ce qui n'a pas été votre cas. Vous avez décidé un beau jour, vous êtes jeune, donc vous vous êtes dit je vais y arriver.
J'ai fait quand même progressivement, mais en tout cas je l'ai fait seule, mais je l'ai fait progressivement et comme c'est recommandé par les médecins, mais je vais utiliser le mot « j'ai rechuté », mais en fait c'est pas du tout le cas et je vais vous expliquer pourquoi par la suite et le combat que je mène aujourd'hui. Mais donc j'ai plusieurs mois à la suite de cet arrêt, je me suis retrouvée très mal, donc on m'a remis sous cet antidépresseur et il a refonctionné. Et plusieurs années plus tard, on a décidé avec mon médecin de l'arrêter. Donc j'étais à la dose la plus basse et je mets des gros guillemets là-dessus et je vais revenir encore une fois là-dessus juste après. Et donc elle m'a dit « bon, vous pouvez l'arrêter ». Et rebelote, 2 mois plus tard, catastrophe, des symptômes invraisemblables. Et cette fois-là, je n'arrive pas à remonter la pente en reprenant le médicament. On est obligé de me mettre à la dose maximum pour que je puisse me retrouver saine d'esprit. On va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai appris aujourd'hui que, en fait, plus on fait d'arrêts et d'arrêts manqués, plus on sensibilise le système nerveux qui, du coup, réagit encore plus fort lors de sevrage suivant. Mais en fait, le sujet sur lequel j'essaie d'attirer l'attention aujourd'hui, c'est que, en fait, aucun médecin, et j'insiste sur ce mot, aucun médecin en France ne sait comment baisser correctement les médicaments psychotropes.
Même ce médecin fantastique que vous disiez avoir enfin rencontré, c'était un psychiatre.
Oui, c'est une psychiatre, c'est toujours un psychiatre, même aujourd'hui, alors que ma vie s'est effondrée à cause d'elle, malheureusement. Mais non, aucun médecin ne sait.
Elle a avoué sa limite. Elle vous a dit, je ne sais pas comment faire.
Oui. Ouais. Non, en fait, elle ne sait pas ce qui se passait. Alors, après cette histoire, j'ai décidé de ne plus jamais arrêter mon traitement. Moi, j'étais persuadée qu'en fait, ce qui se passait à chaque fois, c'était que je rechutais. Et donc, je me suis dit, plus jamais ça. Sauf que j'étais quand même à une dose assez élevée de mon traitement et que auparavant, j'étais à la dose la plus basse. Et donc, sur quelque chose comme 2 ans et quelques, on a baissé progressivement les dosages jusqu'à revenir à la dose juste au-dessus. Donc, j'étais à 75, pour donner le numéro. Et là, à ce moment-là, on décide donc de repasser à 37,5, la dose la plus basse du traitement qui existait. Et 4 jours avant de m'envoler pour New York, pour rejoindre mon fiancé, pour me marier, je me réveille et rebelote. Là, je n'ai pas arrêté mon traitement, mais je me réveille, symptômes gastro terribles, pleurs incessants.
C'était des effets secondaires connus de ce médicament
de ce sevrage.
Oui, oui, parce que vous étiez passé de 75 à 37, c'est ce que vous dites en dosage, oui.
Oui, exactement. Mais encore une fois, pareil, aucune prévention sur le fait que ça pouvait arriver. C'est quelque chose qu'on fait en France. C'est comme ça qu'on pratique. Et donc, je n'ai pas pu partir aux États-Unis. Mon fiancé a été dépêché. Il était américain en France pour venir m'aider. On a voulu remonter mon traitement comme on l'avait fait auparavant. Et j'ai fait ce qu'on appelle un syndrome sérotoninergique. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait trop de sérotonine dans mon corps et ça, enfin, c'est quelque chose dont on peut mourir. Donc, j'ai été hospitalisée. Et à partir de là, ça m'a suivi 9 mois d'enfer parce que mon traitement ne refonctionnait pas, parce que les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait, ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait ce syndrome, ne comprenaient en fait rien à ce qui se passait. Ils ont décidé du coup que je devais être bipolaire puisque je ne répondais pas au traitement. On a fini par réussir plus ou moins à m'équilibrer, mais aujourd'hui je prends 4 médicaments là où j'en prenais 1 et je ne peux plus travailler et j'ai aussi perdu mon fiancé qui n'a pas tenu l'état dans lequel j'étais. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus dormir.
Pourtant, pour qu'on puisse comprendre, la sérotonine c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur normalement.
Alors, oui, mais sauf qu'on peut en avoir trop.
Oui, alors quand on a trop, qu'est-ce qui se passe?
En fait, c'est ce qu'on appelle un syndrome sérotoninergique et en fait, ça modifie le rythme cardiaque.
Vous êtes en excitation permanente, enfin une excitation de la vie permanente.
C'est pas une excitation au sens drôle du terme, c'est une surexcitation du système nerveux. C'est en fait le cœur qui ne se régule plus parce que le système nerveux régule aussi le rythme cardiaque. Donc c'est le système nerveux qui ne se régule plus, de la fièvre, des problèmes intestinaux, etc. Et ça, dans lesquels les plus graves,
c'est une désorganisation totale, d'accord.
Exactement, j'ai compris.
Et donc vous disiez, ce qui est grave, c'est que dans votre vie, vous aviez eu la chance de rencontrer quelqu'un que vous aimiez, avec qui vous alliez construire votre vie. Je rappelle que vous avez 27 ans, pour les auditeurs ou auditrices qui viennent de nous rejoindre. Et vous étiez sur le point de construire votre vie avec quelqu'un qui est venu vous rejoindre, qui est américain, qui vit aux États-Unis.
Il était américain, on devait se marier.
Vous aviez évoqué vos difficultés, vos problèmes, ce traitement, ce que vous aviez, oui. Et ça ne l'avait pas effrayé au départ?
Non, pas du tout. Et surtout que c'était... Je lui ai expliqué en fait comment ça fonctionnait dans le corps et je pense que c'est ce que j'essaie aussi de faire ce soir en partie. C'est, je pense que vraiment la connaissance, c'est ce qui permet à la fois d'enlever justement les craintes des autres et de pouvoir avancer.
Donc vous lui aviez expliqué, il est finalement venu vous rejoindre parce que vous aviez eu ces complications sur ce sevrage qui avait été finalement qui s'est mal passé. Et pourquoi il vous a quitté alors? Parce qu'il a eu peur?
Parce qu'il ne tenait plus, ouais, il ne tenait plus, c'était trop difficile. Et surtout, en fait, moi je me suis retrouvée, parce que en fait les médecins ont commencé justement à dire que j'étais bipolaire, etc. Alors qu'on avait bien compris que c'était un problème de sevrage. Et en fait, les médecins ne connaissaient ce problème-là. Donc, ils ne peuvent pas le reconnaître quand il est devant leurs yeux. Et même aujourd'hui, la seule chance que j'ai, c'est que j'ai pu être en contact avec des médecins britanniques et des médecins américains qui m'ont confirmé ce qui m'était arrivé. Mais en France, c'est inconnu au bataillon. C'est inconnu.
Comment vous expliquez cette méconnaissance du sevrage en France ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, donc, le sevrage qui est pratiqué en France, c'est ce qu'on appelle un sevrage linéaire. Je prends 100, je vais prendre 150, je vais prendre 100, je vais prendre 50, et puis j'arrête. C'est comme ça que ça a été fait. En fait, les études qui ont été faites sont assez récentes, en 2019, par le docteur Mark Horowitz à Londres, qui ont été faites. Et elles ont montré, en fait, que dans le cerveau, donc il faut savoir que ces médicaments, en fait, c'est comme s'ils bloquaient, alors je ne sais pas si pour les auditeurs c'est clair, mais ils bloquent des récepteurs à l'intérieur du cerveau.
Mmh. C'est le principe des psychotropes,
oui. Oui, voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce qu'on appelle les petites doses, donc par exemple, moi, la plus petite dose que j'avais, c'était 37,5, en fait, elle touche plus de 60% des récepteurs cérébraux. Et tous les médicaments psychotropes sont comme ça. En fait, les petites doses touchent le plus de récepteurs. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et donc, quand on fait cette baisse linéaire, et ben à la fin, c'est comme si on sautait dans le vide. Et donc, les médecins anglais et
mais
américains...
Si vous le savez, ce que je ne comprends pas, c'est que si vous le savez, les spécialistes et les professionnels, est-ce que chacun est différent ou c'est vraiment quelque chose de linéaire pour tout le monde quand
Non, c'est pour tout le monde. Après, il y a des gens...
qui réagissent plus ou moins bien.
Voilà, complètement. Il y a des gens, et j'en ai qui me disent « Bah oui, mais moi j'ai arrêté d'un coup et ça s'est bien. » Et tant mieux, on pense que c'est, alors je ne vais pas vous donner des chiffres, c'est entre 30 et 40% qui arrivent à s'en sortir sans trop de dommages, mais on est à plus de 56%, ça je me souviens du chiffre exact, qui ont des sevrages, et certains des sevrages très graves, comme ça a été mon cas. Alors, ce que je voulais rajouter, justement, parce que vous aviez posé justement cette question très juste, mais comment ça se fait que vous connaissez ça, et visiblement, les médecins ne savent pas.
Oui,
alors, la première chose que je dirais, c'est déjà que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et aux États-Unis aussi, c'est que des médecins, des personnalités d'ailleurs très importantes, des médecins-chercheurs, ont subi eux-mêmes cette problématique-là et s'en sont venus à se poser en fait, les questions que moi-même je me suis posée, mais avec eux, les armes de leur bagage universitaire, hein, parce que moi j'arrive toute seule avec mon âge et mes études qui n'ont aucun rapport avec le sujet pour expliquer aux gens comment les choses se passent, donc on ne me prend pas au sérieux. Eux, ça a été le cas. Je pense notamment à Mark Horowitz qui a subi un sevrage terrible, qui l'a traumatisé et qui a été celui qui a étudié bien l'histoire des récepteurs, etc. La deuxième chose qui est très importante, c'est la question de la formation continue en France des médecins qui n'est pas déjà surveillé ou très peu surveillé, très peu encadré, et qui est forcément, ce sont des sujets tellement larges que ben on va peut-être se concentrer sur d'autres sujets que la déprescription en psychiatrie. Surtout que, comme certains arrivent à passer au travers en arrêtant d'un coup, eh bien les médecins ne se rendent pas compte que parfois ils reçoivent dans leur cabinet des gens qui sont entre guillemets complètement fous, eh bien simplement parce qu'on leur a mal arrêté leur traitement. Et la dernière chose aussi, c'est que, donc déjà, vous imaginez que les médecins psychiatres ne sont pas au courant de ça, mais imaginez les médecins généralistes. Or, c'est plus de 80% des prescriptions de psychotropes qui sont faites par les médecins généralistes, qui continuent à faire des choses aberrantes, comme par exemple prendre le traitement un jour sur deux, ce qui est une désorganisation totale pour le système nerveux. Donc ce sont, je pense, des raisons qui sont très, 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 très importantes. Et puis la parole n'est pas écoutée, c'est pour ça que moi j'essaye du mieux que je peux de prendre mes petites armes et d'informer, parce que je pense que ça partira d'en bas en France, puisque visiblement en haut en tout cas ça ne nous écoute pas. Et encore une fois, sans vouloir être, moi je ne suis pas du tout en anti-psychiatrie, hein, le traitement que je prenais m'a vraiment sauvé la vie. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a un problème. Alors, je ne sais pas d'où il vient exactement, mais de la formation des psychiatres qui font des erreurs, mais gravissimes. Et si on veut élargir sur le sujet, alors je vais quand même vous laisser un peu parler. Enfin, si vous avez des questions, je veux dire, par rapport à ça. Mais dans le sens où j'ai d'autres exemples autour de moi qui sont gravissimes de ce que la psychiatrie a pu faire.
Alors, moi j'ai toujours compris, j'ai toujours vu autour de moi qu'il y avait une différence entre ce qu'on appelle des anxiolytiques, où il peut y avoir un véritable risque d'accoutumance. Ces anxiolytiques sont traités, enfin sont généralement utilisés pour traiter les différentes manifestations de l'anxiété. Ils ont des effets plutôt de calmant, c'est-à-dire qu'on les prend de temps en temps, mais il peut y avoir un véritable phénomène de dépendance, alors que j'ai toujours pensé, alors peut-être à tort, que les antidépresseurs, contrairement aux anxiolytiques, qui sont des traitements de fond, qui agissent aussi sur l'humeur du patient, il n'y avait pas d'accoutumance et surtout on pouvait continuer à les prendre sous encadrement médical évidemment, sans qu'il y ait un phénomène de dépendance et qu'on ait besoin donc d'un sevrage.
Alors, c'est quelque chose qu'on a cru pendant longtemps, et encore une fois, c'est assez malheureux de le dire, mais il y a beaucoup de médecins qui pensent ça. Moi, j'ai eu des médecins en face de moi qui m'ont dit « Mais madame, vous preniez une dose, c'est du pipi de chat, hein, littéralement, parce que les labos leur avaient dit que c'était le cas, hein, un autre problème qu'on pourrait aborder. » Mais non, en fait, tous les médicaments, alors les anxiolytiques sont spéciaux et c'est vrai qu'ils sont connus pour avoir une très forte dépendance, mais en fait, tous les médicaments qu'on prend qui altèrent la chimie du cerveau le forcent à se remodeler, même physiquement, c'est-à-dire même dans sa physionomie, il se change complètement pour s'adapter aux nouveaux neurotransmetteurs, etc. Et donc, quand on enlève la molécule, il doit faire le chemin inverse, se reconstruire dans un autre sens, sans l'appui de la molécule, et ça prend un temps très long. Et surtout, si on fait mal, il peut arriver ce qui m'est arrivé à moi. Moi, alors le terme anglais de ce qui m'est arrivé, ça s'appelle « protracted withdrawal injury », mais en fait, en français, c'est une blessure de sevrage. Ça n'existe, pour vous dire, moi, je le traduis avec mes mots, mais je ne l'ai jamais vu dans aucune publication française. C'est une blessure neurologique, en fait, du cerveau, qui est traumatisée par une baisse trop brutale qui n'arrive pas à se réadapter, en fait.
Où vous en êtes tout du coup aujourd'hui? Parce que vous lancez cette pétition. Cette pétition, elle a pour but d'attirer l'attention sur effectivement ces difficultés de sevrage, de ces méthodes qui ne sont pas aujourd'hui adaptées en France et ça ne marche pas. Donc vous voulez attirer l'attention pour que les choses changent. Et comment elles peuvent changer?
Alors, donc déjà, la première chose, c'est la formation, parce que les médecins ont beaucoup de poids, c'est logique, de par leur statut, pour faire changer les choses, pour créer, par exemple, en Angleterre, il y a des cliniques spécialisées dans la déprescription qui sont gratuites.
Et qui n'existent pas en France.
Qui n'existent pas en France. D'accord. Aux États-Unis, bon, bien sûr, ce n'est pas gratuit, mais il existe des cliniques, il existe même des cliniques en ligne, qui sont disponibles pour le public. Ça n'existe pas en France. La deuxième chose, et qui est plus complexe, mais aussi très importante, c'est le côté pharmacie et le côté labo. On sait qu'en ce moment, il y a des pénuries incroyables de psychotropes, qui est absolument terrifiant quand on sait ce que ça peut faire, un arrêt brutal d'un traitement. Mais il y a des pénuries de psychotropes en France. Mais une autre chose, c'est que les labos donc, n'ont pas mis en place des formules, des gélules, des cachets qui permettent de baisser de manière suffisamment progressive. Donc il faudrait voir, je sais que dans certains pays, notamment dans les pays du Nord, ils ont créé
des sites où on discute
des moyens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont trouvé des formules en pharmacie qui permettaient un titrage très progressif et qui était fait par la pharmacie.
Je comprends. Et puisque vous vouliez aussi ce soir, c'est rappeler que que vous, vous avez 27 ans aujourd'hui, toutes ces personnes qui peuvent être concernées, dont le droit, et c'est la base du droit médical d'ailleurs, le droit à une information claire et honnête pour que chaque patient connaisse les risques liés à l'arrêt progressif des psychotropes, et vous en avez fait les frais, et peut-être que vous auriez vu les choses différemment, ou fait les choses différemment si vous l'aviez vraiment su. Alors on a quelques messages, et puis malheureusement on ne va pas pouvoir rester plus longtemps, Bertie, mais on a quelques messages. On a quelqu'un, alors je n'ai pas le nom de la personne qui témoigne, mais qui nous dit au 739-21, je prends également beaucoup de médocs pour la dépression, mais aucun neuroleptique qui me rendait plutôt mal. Mais surtout, je n'ai jamais arrêté, car je sais qu'en arrêtant, il peut y avoir des conséquences graves sur mon humeur et mon comportement. Ensuite, on a un autre témoignage qui nous dit « Bonsoir Bertie, les médecins ne reconnaissent pas leur erreur, victime d'une erreur de traitement. » Alors elle me donne le nom du traitement, il y a eu des effets secondaires extrêmes. Elle subit toujours les conséquences de l'arrêt de cette difficulté de traitement, et son médecin refuse de l'admettre, et aujourd'hui elle est effectivement très mal. Yvette dit, mais vous avez 27 ans, pourquoi vous ne tentez pas médecine aujourd'hui? Il est encore temps.
Malheureusement, encore une fois, ce qui est terrible, et c'est pour ça que moi je fais ça, c'est qu'aujourd'hui, je vous avoue que ma vie est complètement ruinée. Mes traitements me laissent... Mes traitements sont trop lourds, c'est très difficile pour moi de travailler. Je suis très fatigable. Et je vous avoue que je ne sais pas si je pourrais un jour retravailler, ce qui est quelque chose qui me peine.
Parce qu'aujourd'hui, c'était ma question, oui, parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez vécu, malgré ce sevrage difficile, vous en êtes où? Vous continuez à prendre des médicaments? Vous avez redosé?
Aujourd'hui, j'ai 4 médicaments, contrairement au premier que je prenais, et on m'a stabilisé comme ça. Et malheureusement, là, j'attends de voir pour avoir justement rendez-vous avec un spécialiste anglais. Concrètement, je suis un peu coincée parce que mon système nerveux ne supporte plus le moindre changement.
Et en étant comme vous êtes aujourd'hui, vous êtes mal?
Je ne suis pas très bien. Je suis assez instable. Et je vous avoue que c'est très difficile de voir un avenir joyeux à tout ça. Je m'accroche honnêtement simplement à ce combat-là en espérant que d'autres n'aient pas à vivre.
C'est bien d'avoir effectivement ces combats, surtout un combat qui est de votre propre... Qui résulte de votre propre parcours et qui continue, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, vous êtes extrêmement jeune, donc vous devez comprendre. Vous savez, quand on commence à comprendre ce dont on souffre, ça vous aide amplement à comprendre aussi ce que les médecins peuvent vous offrir aujourd'hui. Et vous avez raison de mener ce combat, ce combat au moins sur le droit à l'information. Et puis peut-être, comme vous dites, votre parole va libérer tout ce qui ne va pas en France et va peut-être accompagner des recherches, des centres, comme vous le disiez, anti-sevrage spécialement affectés à cela, pour que les personnes concernées ne puissent plus vivre ce que vous avez vécu, cet enfer, comme vous l'appelez.
Oui.
Merci beaucoup Bertie. Je rappelle votre pétition. Sous psychotrope, vous êtes en danger. On retrouve cette pétition sur le site mesopinions.com. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
À bientôt.
Venez vous confier à Roland Pérez sur Europe 1.